Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Bonjour et bienvenue sur Radio Présence. Une semaine de plus. Voilà, vous voulez. La semaine dernière, nous étions dans le Béarn. Cette fois-ci, nous allons être dans les Hautes-Pyrénées, puisque nous partons dans un village des Hautes-Pyrénées situé dans le Val d'Azun. Ce village, en 1930, s'appelait seulement Arens.
Philippe, vous avez raison de le souligner, car ce village a fusionné avec un autre village Marsous le 1er janvier 1973, d'après ce que j'ai lu. Et il s'appelle dorénavant Arens-Marsous.
Exactement, voilà. Par contre, je savais que c'était deux villages qui ont jumelé, mais la date, je ne la connaissais pas. Donc, c'est bien le 1er janvier 1973 où Arens et Marsous est devenu un seul village.
C'est ce que j'ai lu.
Voilà. Et à mon avis, ça va arriver de plus en plus dans des communes, puisqu'il y a des petits villages qui vont arrêter hein, pour fusionner
Oui.
avec peut-être la commune la plus importante. Alors, c'est un village de montagne. Il fait partie du parc national des Pyrénées.
Et autrefois, sur le territoire d'Arens, on cultivait beaucoup le lin et le chanvre.
On peut que conseiller à nos auditeurs d'aller se promener à Reims pour y admirer ses vieux ponts, son vieux moulin et son lavoir.
Et son église Saint-Pierre, qui est inscrite au monument historique.
Mais Lotte Paré, notre auteur d'aujourd'hui, est venu à Reims en 1930 pour s'intéresser au vocabulaire utilisé par les habitants et à la vie que l'on y menait en 1930. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Lotte Paré est née en Allemagne au tout début du XXe siècle. Sous la direction d'un spécialiste allemand du gascon pyrénéen, elle prépare une thèse et pour cela séjourne dans les Hautes-Pyrénées à Arens, qui se trouve non loin d'Argelès-Gazost, pendant deux étés consécutifs, en 1930 et 1931. Elle étudie le vocabulaire en usage dans la vie quotidienne dans cette commune de la vallée d'Azun. Au début de l'ouvrage, elle s'intéresse aux conditions socio-économiques de cette commune. En guise d'introduction, écrit Lotte Paré, et pour une meilleure compréhension de l'exposé qui suit, il m'apparaît utile de livrer ici un résumé succinct des conditions socio-économiques d'Arens. La propriété foncière se subdivise en propriétés privées et propriétés communales. Les propriétés privées sont constituées des champs et des prés se trouvant dans la vallée, ainsi que d'une petite partie des bois et prairies s'élevant sur les contreforts. Tout le reste, c'est-à-dire les forêts et les pâturages dans les montagnes, est la propriété des deux communes d'Arens et de Marsous, un petit village situé non loin de là, en dessous d'Arens. En raison de la prédominance de la production animale, ces pâturages représentent toute la richesse de la commune. Celle-ci est donc très soucieuse de préserver son patrimoine dans son intégralité face à toute revendication privée. Les habitants du village envoient leur bétail durant tout l'été sur les pâturages de la commune, à qui ils versent en contrepartie une taxe, la bacada. À l'été 1930, cette redevance est levée à 3 francs 50 pour une vache, un bœuf, un cheval, un âne, 10 moutons ou 10 chèvres. Pour le bétail étranger en provenance de la plaine, qui passe l'été sur ses pâturages, surveillé par son propre pâtre ou par un berger local, il faut verser la bacada estraniera, qui est 10 fois plus élevée que la bacada habituelle, et représente ainsi le principal revenu de la commune. Du fait de l'intangibilité de la propriété communale et de l'étroitesse de la vallée, la propriété privée est très limitée et en aucun cas extensible. Augmentation du nombre des familles et morcellement du patrimoine familial ne serait pas possible sans qu'il en résulte un grand péril pour l'existence de la famille. Cela, de tout temps, a été chose dominante pour l'ordre de succession. Certes, le droit d'aînesse ne règne plus d'une manière absolue. L'essentiel est qu'un seul enfant hérite de la propriété foncière, comprenant la maison, accompagné du cheptel vif et mort. Les enfants plus jeunes étaient jusqu'il y a peu obligés de partir, sinon ils restaient célibataires à la maison et partageaient les travaux agricoles avec le reste de la famille. Le montant de l'indemnité prévue par la loi n'a rien changé à cet état de choses. Tacitement, et en l'occurrence avec le même sentiment d'une chose allant de soi jusqu'ici, les enfants qui n'ont rien obtenu lors du partage de la succession renoncent à leurs droits légitimes. Du coup, les litiges autour de l'héritage sont quasiment inexistants. Le sens de la sauvegarde de la famille est très prononcé et chacun sait que la division de la propriété et la mobilisation de l'argent liquide signifieraient sa ruine. De nos jours, la situation a un peu changé à cet égard. En effet, avec les besoins grandissants occasionnés par le coût de la vie, la seule propriété foncière ne peut plus subvenir aux besoins d'une famille nombreuse. On va donc chercher son salaire à l'ardoisière, tout près du village, où on s'établit dans l'une des grandes villes industrielles de la région. De ce fait, l'activité agricole devait perdre beaucoup de sa vigueur. Autrefois, on émigrait principalement en Argentine, puis plus tard aux États-Unis. De nos jours, ce sont les grandes villes industrielles de France, avant tout Paris et Bordeaux, qui accueillent le plus gros du courant des émigrants. Alors qu'autrefois, une grande partie d'entre eux revenaient dès qu'ils avaient acquis un capital suffisant, ces gens sont définitivement perdus pour le pays. Par ailleurs, le métier de gendarme ou de douanier a de tout temps été très apprécié des enfants privés d'héritage. Pourtant, cela n'a jamais empêché une contrebande intense avec l'Espagne. Et le fait que, fréquemment, l'un des membres de la famille soit garde-frontière, tandis qu'un autre faisait de la contrebande, ne bouleversait en rien la paix de la famille. La contrebande a toujours été considérée comme un métier honnête, faisant même l'objet d'une particulière estime en raison de l'habileté et de la témérité qu'elle requiert. Ce type de revenu n'existe pratiquement plus de nos jours. Tout au plus fait-on de temps en temps passer secrètement la frontière à une tête de bétail. Hormis ses besoins en vin et en sel, l'agriculteur vivait autrefois entièrement en autosuffisance. Ce dont il avait besoin pour se nourrir, son propre champ le produisait. Pour moudre le grain, il utilisait son propre petit moulin. Le lin qu'il cultivait et la laine de ses moutons fournissaient la matière première pour des vêtements simples qui étaient entièrement fabriqués à la maison. Le métier à tisser faisait partie intégrante de la maison. Même les sabots en bois, les esclopes, étaient façonnés par les hommes pendant les longues soirées d'hiver. Et la production animale rapportait un peu d'argent. Aucune ferme d'une certaine importance n'était dépourvue de la scie mécanique et du fouloir. De nos jours, la situation a beaucoup changé. Les hommes adultes, parfois aussi les jeunes filles et les femmes, trouvent du travail bien payé à la carrière d'ardoise, non loin du village. On considère plus lucratif d'y gagner l'argent liquide et d'acheter chez l'épicier le nécessaire pour vivre. Ainsi peut-on, par exemple, observer aujourd'hui ce spectacle, curieux pour un village de campagne, du camion qui apporte le pain frais d'Argelès, la ville la plus proche. Voici comment l'on vivait à Reims jusqu'en 1930, d'après la linguiste Lotte Paré, qui séjourna dans ce village en vue d'écrire une thèse en allemand sur le vocabulaire utilisé dans la vie quotidienne. Le passage retenu est extrait du livre « À Reims, 1930, les mots et les choses », publié en 2008 par l'association Guillaume Morand et la Société des Sept Vallées.
Mais on peut dire, Anne Lasserre, que Lotte Paré, notre auteur aujourd'hui, est venu à Reims on le dit bien, en 1930, pour s'intéresser au vocabulaire utilisé par les habitants et à la vie qu'on y menait en 1930.
Voilà.
Donc, quand il dit que la vie qu'on y menait, c'est bien en 1930, pas en 2019.
Très bien, Philippe, oui. Et vous avez raison de le préciser. Alors, Lotte Paré est une disciple des linguistes allemands qui avaient créé l'école des mots et des choses. Et comme eux, elle s'intéresse aux dialectes européens issus du latin et employés encore par les sociétés rurales plutôt que le français.
Par exemple, elle s'intéresse à tous les noms qui servent à désigner les prairies et les prés. Il y a des noms différents selon que c'est un pâturage dans la montagne entre des rochers ou un pâturage communal ou une prairie du village ou un pré communal près du village.
Ah oui, c'est extraordinaire. Et le vocabulaire du dialecte local est très riche. On peut citer, Philippe, d'autres exemples. Il y a des noms différents pour désigner le foin fauché, le foin qu'on laisse étendu pour la nuit, le foin étendu qui est déjà sec, etc. C'est extraordinaire pour moi.
Grâce à l'association Guillaume Morand et à la Société des Sept Vallées, la thèse de Lotte Paré a été traduite en français et publiée en 2008.
Elle est donc, Philippe, devenue accessible à un plus large public, pour notre plus grand bonheur, bien sûr.
Alors, la semaine prochaine, nous recevrons Françoise Froilly, pour son ouvrage « Quand la pauvreté était un crime, les gueux dans le sud-ouest au
siècle des Lumières ».
Siècle des Lumières, 1763-1789. Voilà. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine, Anne.
À la semaine prochaine, Philippe.